Vous écoutez CILS FM,
la voix de votre communauté.
Le projet CapOuest, rendu possible grâce à l'appui financier du Fonds canadien des radios communautaires, vous est présenté par les stations
CFRG 93.1 FM, la voix des prairies, Gravelbourg.
CHPL 92.1 FM, Plamondon.
CIBR Radio Taïga
103.5, Yellowknife.
Et CILS 107.9 FM Victoria.
Sasquatch, Albertains, Britanno-Colombiens et des territoires du Nord-Ouest, bienvenue dans Sport et Santé Magazine. Cette semaine, dans la portion sport de l'émission, nous parlons de football australien et de hockey sous-marin avec Marie-Hélène Bourret. Et dans le volet santé et mieux-être, nous faisons le point sur les méfaits de la position assise avec Julie Gagnon. Les revues de presse de l'actualité sont aussi, bien sûr, au menu, le tout agrémenté de musique. C'est Alexis Gagnon au micro, bonne émission à tous. Santé Magazine se met en marche avec la revue de presse sportive dominée encore cette semaine par les internationaux de tennis d'Australie qui vont culminer dimanche 29 janvier. Allons-y tout de suite avec cette nouvelle qui réjouit les amateurs de tennis partout dans le monde. Serena et Venus Williams s'affrontent en finale des internationaux d'Australie. C'est rapporté dans tous les médias. Je vous lis quelques lignes de la dépêche de l'Associated Press. Lorsque Venus Williams, euphorique, a exécuté sa pirouette pour célébrer sa victoire et que la foule a réagi sous un tonnerre d'applaudissements, Serena Williams, sa sœur, attendait calmement dans le couloir adjacent que l'effervescence se dissipe. Elle était certes ravie de la victoire de sa sœur aux dépens de Coco Vandeweghe, l'Américaine qui a défait Eugénie Bouchard il y a quelques jours, rappelez-vous. Elle était certes ravie de cette victoire, donc, et du retour de sa sœur en finale d'un tournoi du Grand Chelem pour la première fois depuis leur face-à-face de Wimbledon en 2009. C'était il y a 7 ans. Presque 7 ans. Mais Serena ne pouvait pas vraiment donner libre cours à ses sentiments parce qu'elle avait un boulot à faire. Au moment où une sœur Williams quittait le court, l'autre faisait son entrée pour sa demi-finale contre Mirjana Lučić-Baroni et les deux sœurs ont à peine échangé un regard. Une heure plus tard, Serena Williams s'assurait qu'il y aurait une 9e finale entre les sœurs Williams en Grand Chelem et la première en Australie depuis 2003. Les sœurs Williams voyagent souvent ensemble et s'entraînent également ensemble comme elles le font depuis 2 décennies. Et vendredi 27 janvier, à la veille de la finale des dames aux internationaux d'Australie, les deux sœurs se sont encore une fois entraînées ensemble au Melbourne Park. Serena Williams est en quête d'un 23e titre, record de l'ère moderne en Grand Chelem. Venus Williams vise quant à elle son 8e titre majeur et le premier depuis Wimbledon en 2008. Nous parlons, a indiqué Serena Williams, je pense maintenant qu'on se parle plus que jamais. Rien ne peut briser nos liens familiaux. En fait, cela va certainement nous rapprocher, sachant que je veux la voir faire de son mieux, et je sais qu'elle veut vraiment me voir faire de mon mieux également. Serena Williams a déjà joint les rangs des plus grandes joueuses de tous les temps. Elle a égalé le record de l'ère moderne de 22 titres en simple du Grand Chelem. de Steffi Graf en gagnant Wimbledon l'année dernière. Elle a ensuite raté l'occasion d'améliorer le record de Steffi Graf à la suite d'une défaite en demi-finale des internationaux de tennis des États-Unis pour la deuxième année consécutive, et elle n'a pas voulu parler du chiffre 23, le fameux chiffre 23 qui lui permettrait de surpasser Steffi Graf depuis le début du tournoi en Australie. Donc c'est à voir. Un moment important pour Serena Williams face à sa sœur. On suivra ça, évidemment. Autrement, du côté des messieurs, donc du tennis masculin, Miloš Raonic, rappelons qu'il s'est incliné contre Rafael Nadal. Un petit rappel donc à propos du Canadien Raonic qui a été éliminé des internationaux d'Australie mercredi. C'était le 25 janvier. Raonic, qui était la troisième tête de série pourtant, a été vaincu par Rafael Nadal qui était lui classé 9e. Et ça s'est passé en quart de finale. Et finalement, toujours en tennis messieurs, Roger Federer a gagné sa bataille contre son compatriote Stan Wawrinka. Le Suisse Roger Federer a repoussé le retour de son compatriote Stan Wawrinka pour se qualifier pour la finale des internationaux d'Australie dès son tournoi de retour à la compétition. Et ça s'est passé en 5-7 en date de jeudi 26 janvier. Il s'agira donc de la première finale du Suisse Roger Federer en Grand Chelem depuis les internationaux des États-Unis de 2015 et en Australie depuis son quatrième succès en 2010. Son dernier titre majeur en Grand Chelem date de Wimbledon en 2012. Federer, qui est âgé de 35 ans, avait pris 6 mois de repos pour soigner une blessure au genou entre juillet et janvier. Il n'avait pas disputé de tournoi, outre un tournoi d'exhibition juste avant les internationaux de tennis d'Australie. Donc il est au sommet de sa forme, on le constate, puisqu'il a atteint la finale du tournoi. Alors cette finale, c'est une finale rêvée. Tous les observateurs sont d'accord, tous les fans de tennis sont ravis. C'est donc une finale rêvée entre Rafael Nadal, l'Espagnol, et Roger Federer, le Suisse. Une finale aux accents vintage, écrit l'AFP dans une dépêche publiée vendredi 27 janvier. L'Open d'Australie va se terminer dimanche par une finale rêvée aux accents vintage, aux accents d'autrefois, entre Rafael Nadal et Roger Federer, qui totalise à eux deux 31 titres du Grand Chelem et ne s'était plus croisé à ce niveau depuis la finale de Roland-Garros en 2011. L'Espagnol, gagnant de 14 titres en Grand Chelem, a rejoint son vieux rival en battant le Bulgare Grigor Dimitrov au bout d'un magnifique combat de 4h56 en 5-7 vendredi 27 janvier à Melbourne. Le Suisse Roger Federer, qui a quant à lui 17 titres en Grand Chelem, s'était qualifié la veille, rappelons-le, face à son compatriote Wawrinka. Il y a encore quelques mois, personne n'aurait imaginé un tel dénouement pour le premier Grand Chelem de la saison en Australie, surtout pas les deux principaux intéressés, à savoir Roger Federer et Rafael Nadal. Après sa victoire qui lui donnait le ticket d'entrée à la finale, Rafael Nadal a raconté aux spectateurs du stade la même anecdote que Roger Federer avait lui aussi racontée. Elle remonte à il y a quelques mois. Roger Federer a déclaré Nadal était venu me rendre visite pour l'inauguration de mon académie de tennis. Comme il était blessé au genou et moi au poignet, nous n'avons même pas pu fournir un match d'exhibition. Nous avons seulement tapé quelques balles avec des enfants. Jamais nous n'aurions pu prévoir ce qui se passe en ce moment. Alors une finale de rêve, comme l'écrit l'AFP dans cette nouvelle que vous trouverez un peu partout dans les médias sportifs. On passe à présent au sport d'hiver. Laurie Blouin, c'est une Canadienne, a été médaillée d'argent en Italie. Laurie Blouin a profité d'un ciel bleu immaculé et de conditions de glisse parfaites pour monter vendredi 27 janvier sur la deuxième marche du podium de l'épreuve de slopestyle de la Coupe du monde de surf des neiges qui était présentée dans les Alpes italiennes. La Finlandaise Eni Rukajärvi a obtenu le meilleur pointage au terme des trois descentes de la finale. Laurie Blouin a, quant à elle, réussi sa meilleure descente à son premier essai, où elle a récolté 80 points. La Suisse Sina Kandrian, elle aussi, s'est value 80 points, un peu moins en fait avec les décimales que Laurie Blouin, et s'est classée troisième. Alors pour Blouin, qui est originaire de Stoneham et Tewksbury au Québec, il s'agit d'une deuxième médaille en Coupe du Monde. En août 2015, elle avait pris le deuxième rang du slopestyle de Cardona en Nouvelle-Zélande. C'était fou aujourd'hui, a-t-elle affirmé en entrevue suite à l'épreuve. Avec les superbes conditions, c'est la plus belle compétition à laquelle j'ai pris part. En plus, le niveau était très relevé. C'est agréable parce que les filles se poussaient entre elles. Je suis vraiment contente. Autrement, rapidement, toujours à propos de sport de glisse, le Canadien Éric Gay a chuté à la descente de la Coupe du Monde de Garmisch vendredi 27 janvier. Une malchance sans gravité, heureusement, puisqu'il a atteint l'air d'arrivée sur ses deux skis et salué la foule. Donc, c'est une chute spectaculaire. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais heureusement, sans mal pour le skieur Éric Gay, originaire de Mont-Tremblant au Québec. Voilà pour le regard sur les dernières actualités sportives en date. L'émission se poursuit après cette chanson de Louis-Jean Cormier. Je vous retrouve de l'autre côté. Je serai en compagnie de ma collègue Marie-Hélène pour deux nouvelles chroniques sur les sports insolites. Restez à l'écoute.
Bonjour Marie-Hélène.
Rebonjour Alexis.
Alors, Aujourd'hui, sport insolite, sport méconnu.
Ouais.
On parle d'un sport qui se dispute aux antipodes.
Actuellement, aux antipodes, c'est le cas de le dire, c'est le football australien.
Oui, alors, le football australien.
C'est un sport qui existe seulement en Australie. Et les habitués, les Australiens, appellent ça football, footy. Les étrangers appellent ça aussi Aussie football ou Aussie rules football.
Est-ce que ça ressemble au football américain ou plutôt au soccer?
Ça ressemble à tout. C'est un mélange de rugby, de soccer, de volley, de handball.
Oui.
Ça s'appelle aussi tout simplement Aussie.
Alors, on a regardé quelques extraits rapidement
avant,
sur notre portail vidéo préféré et ça semble assez intense et même dangereux, j'ai envie de dire.
Alors, on va commencer par le terrain.
Oui.
OK, pour le différencier des autres terrains. C'est un terrain qui est ovale. Il est très grand puisque un terrain de football australien peut faire jusqu'à 195 mètres de long et 155 mètres de large. Alors, si on compare ça à un terrain de handball ou de volleyball, ça commence à être grand un peu.
Oui.
Le but, est là, c'est compliqué. L'espace qui est le but, le filet, si tu veux, là. Okay?
Oui.
Le but, il y a quatre poteaux, deux grands, deux petits, de chaque côté du terrain. Donc, ça fait.
Mais il n'y a pas de côté.
Il est ovale, dans les bouts allongés du terrain.
D'accord.
À chaque extrémité de l'ovale. Pour marquer des points, il suffit de faire passer le ballon entre les poteaux. On marque 6 points quand on tape au pied du pied, donc avec le pied entre les deux grands. 1 point quand on touche le poteau, qu'on tape entre un grand et un petit, qu'on tape entre les deux grands à la main, ou que c'est un défenseur qui rentre le ballon entre les deux grands.
OK.
Je vois que les sourcils se nouent au-dessus
de
ton fond.
Il y a combien de joueurs sur le terrain?
18 joueurs dans chaque équipe.
Et on a le droit de plaquer?
Oui, tu as le droit de tout faire, sauf tuer la personne.
Bon.
Alors, tu n'as pas moins de 8 arbitres sur le terrain en tout temps. Donc, ça fait 36 plus 16. Tu es rendu à 56 personnes sur le terrain, plus des messagers en jaune fluo qui sont en fait des entraîneurs pour faire passer les consignes.
C'est renversant.
Mais en tout temps, là, tu as 44 personnes, parce qu'évidemment, dans tes 36 joueurs, tu as deux équipes. Mais en fait.
Et tu m'as parlé du ballon. Est-ce que c'est un ballon de soccer
Le ballon est ovale. Alors, c'est
le ballon de
football australien est en cuir. Okay? Ça ressemble beaucoup à celui du football américain. On a le droit de le prendre à la main et de courir avec, mais à tous les 15 mètres, il faut faire un dribble. Alors, comme au handball, dribbler avec un ballon à balle, c'est pas
évident.
Les passes aux pieds sont les plus utilisées car elles permettent de couvrir plus de distance d'un seul coup. Et puis, parce qu'on n'a pas le droit de toucher un joueur qui a reçu une balle envoyée aux pieds sans qu'elle ne touche à terre. Donc, c'est un avantage parce que tu n'as pas le droit de le toucher.
D'accord.
Tu n'as pas le droit de l'assommer, tu n'as pas le droit de crever un nain, il n'y a rien. Alors, on peut aussi faire des passes à la main, mais en frappant la balle comme au volley. Alors, si tu fais des passes à la main, tu le fais comme au volley-ball. OK, comme un toucher, là. Okay?
Oui, OK.
Pas de hors-jeu.
Donc, un impact et non une passe.
C'est ça, comme
lancé.
Au football américain, par exemple.
Voilà, OK.
Et ça, c'est intéressant. Pour arrêter un joueur qui a le ballon, on a le droit de le pousser, le tirer, le plaquer, taper sur le ballon. Bref, un peu tout. Il faut juste éviter de le tuer.
Voilà, conclusion. Avoir les impacts et les...
sur la vidéo, oui.
Les chutes, les carrières dans ce sport ne doivent pas être très longues.
Ça ne doit pas être très, très long, effectivement. Il y a une ligue qui s'appelle Australian Football League ou quelque chose comme ça, qui a des règles quand même assez strictes, mais tout le monde s'en fout. Alors, si tu as bien vu le vidéo... Ils n'ont pas vraiment de casque comme les joueurs américains, par exemple.
Casque,
C'est plus un jeu comme le soccer où tu n'as pas vraiment de protection.
Mm-hmm.
Mais tout est permis. On voit sur les vidéos des gens qui font des pirouettes dans les airs parce qu'ils sont plaqués trop durement. Les arbitres aussi, ils donnent pas leur place. Ouais. Non, ils donnent pas leur place. Hein. c'est eux qui font les remises au jeu, lorsqu'il y a des touches, mais pas toutes.
Ils se retrouvent dans la mêlée. Donc.
Ils se retrouvent dans la mêlée. Ils se mettent face au public et balancent le ballon en l'air et en arrière, un peu comme le bouquet de la mariée. Et les joueurs se tapent dessus pour le récupérer. Ben, pour les engagements, les arbitres toujours lancent le ballon très fort par terre et les joueurs s'étripent pour le récupérer après le rebond. Alors, ils tirent le ballon à terre.
Oui.
Souviens-toi, c'est un ballon ovale. On ne sait pas vraiment dans quel sens il va aller. Alors, les arbitres font des trucs aussi pas possibles avec leur drapeau. Quand les joueurs marquent des buts, c'est mieux que des majorettes, ils tirent les trucs en l'air.
Oui.
Alors, c'est vraiment assez surprenant. Et la dernière chose, c'est que une des plus grosses équipes, une des équipes professionnelles les plus en vue, si on veut, c'est les Lions de Brisbane. Alors, Brisbane Lions.
Oui.
Et la chanson officielle est sur le même air que la Marseillaise.
Ah oui.
Alors, c'est un petit peu plus rock'n'roll. Il y a des paroles en anglais, évidemment, avec quelques variations. Mais c'est impossible de se tromper. C'est l'air de la Marseillaise qui est l'hymne de l'équipe.
Alors, je ne veux pas verser dans les stéréotypes, mais ils sont cinglés, ces Australiens.
Ils sont cinglés, ces Australiens.
Merci, Marie.
Tout sauf le menhir.
Oui, alors, ayant voyagé dans les auberges de jeunesse pour avoir croisé les Australiens, ils sont toujours un petit peu plus... un petit peu plus fous. Et ça ne surprend pas qu'ils aient ce sport. Gros merci, Marie-Hélène.
Un plaisir.
Sport et Santé Magazine à l'antenne de votre radio communautaire francophone locale. Merci d'être à l'écoute. J'accueille en studio Marie-Hélène, notre chroniqueuse sportive. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour. Alors moi j'ai beaucoup de plaisir à faire ces chroniques-là, si tu savais,
oui.
Quand je fais mes recherches des fois. Là.
C'est réciproque. Alors on continue dans notre veine de prédilection, les sports insolites.
Ouais.
Et aujourd'hui on parle de hockey, mais
hockey subaquatique.
Voilà, du hockey sous l'eau.
Et qu'on appelle aussi le hockey sous-marin ou octopush en anglais. C'est un sport d'équipe, évidemment, qui se joue en apnée au fond d'une piscine.
En apnée, donc on n'a pas de bonbonne d'oxygène.
Non, la piscine n'est pas longue, n'est pas profonde, là. Alors, dans une piscine, il y a deux équipes. Pendant deux mi-temps de 10 minutes environ, le but du jeu est de progresser en apnée en poussant ou en passant un palet, donc une espèce de rondelle avec un trou au milieu, à l'aide d'une crosse spécifique qui mesure à peu près une trentaine de centimètres, d'après ce que j'ai vu, afin de le faire entrer dans le but adverse. Alors, les buts sont posés sur le fond aux extrémités de la piscine, évidemment. Les joueurs sont au nombre de 6 par équipe, puis jusqu'à 4 remplaçants sur le bord de la piscine. Alors, tu as 10 joueurs par équipe, en fait. L'équipe est composée de 3 défenseurs de manière générale, le pivot droit, l'arrière-centre et le pivot gauche, et de 3 attaquants, l'allée droit, l'allée centre et l'allée gauche. À la suite de certaines fautes, un joueur peut être sanctionné par une prison, réduisant ainsi le nombre de joueurs de son équipe dans l'eau. Donc, c'est le principe de la pénalité.
Donc, est-ce que les gens portent des chaussures à plomber pour tenir dans le fond de la piscine?
C'est parce qu'en fait, tu nages plus que tu ne marches.
OK.
Parce que ton bâton, si tu veux, tu le tiens à la main, mais il mesure une trentaine de centimètres. Alors, c'est plutôt comme si tu l'accroches dans ton truc, là.
Le palais ou l'anneau ne doit pas nécessairement demeurer au fond de la piscine.
Non, pas nécessairement.
Tu le transportes avec toi.
Tu peux le transporter, tu peux le lancer, c'est plus difficile dans l'eau, j'imagine. Là.
Donc, c'est un petit peu le principe du handball. Tu portes le ballon ou l'anneau avec toi et non sur le sol.
C'est ça. Alors, tu as comme équipement, si tu veux, Donc, tu as deux couleurs différentes pour les équipes différentes pour se différencier, évidemment. Tu as le tuba et le protège-bouche. Tu as le bonnet et le protecteur pour les oreilles parce que tu peux facilement avoir un tympan défoncé. C'est une des plus graves blessures qui peut arriver là-dedans. Ouais. Tu as le masque, les palmes.
Alors, les joueurs de water polo portent le même dispositif. Oui. Ouais.
OK. Alors, le palais donc, dont on passait, on a parlé, mesure environ 8 cm de diamètre, 5 cm d'épaisseur. Il te pèse environ 1,3 kg. Les buts sont en acier inoxydable, évidemment.
1,3 kg, OK. Donc, ça permet de descendre.
Ça peut tomber, effectivement. Les buts sont d'une longueur d'environ 3 mètres. Donc, c'est assez large.
Et ils sont sous l'eau.
Ils sont sous l'eau, absolument.
Pas comme au water polo où ils sont flottants non, sur la surface.
C'est dans le fond de l'eau.
D'accord.
La profondeur doit être entre 1,8 et 4 mètres, profondeur de la piscine. Alors, l'arbitrage, les matchs sont arbitrés par deux, voire trois en championnat international arbitres dans l'eau ou un hors de l'eau. Parce qu'évidemment, tu peux être aussi en surface. T'es pas nécessairement dans l'eau. Hein.
Le public, j'imagine, est en majeure partie hors de l'eau?
La plupart du public est à l'extérieur de l'eau. Alors, les arbitres dans l'eau ont une gestuelle codifiée pour communiquer entre eux et avec les joueurs. Des arbitres de table qui notent le score sur la feuille de match s'occupent du chronomètre, etc. Et l'arbitre qui est à la surface de l'eau, c'est lui qui sonne les pénalités ou qui sonne les autres choses. Alors, une partie importante des actions se déroulant sous l'eau pour ne rien rater, les spectateurs peuvent, sans être dans la piscine, munis d'un masque et d'un tuba.
D'accord.
Ils sont comme la tête dans l'eau couchée sur le bord de la piscine, si tu veux. Là. Soit de regarder la partie aquatique sur des écrans reliés à des caméras aquatiques qui filment dans l'eau. Les dispositifs sont souvent mis en place pour des championnats importants tels que les championnats.
Des championnats importants de
nationaux
hockey
sous-marin. Et internationaux, absolument. On peut aussi...
Moi, j'ai jamais entendu parler de ce sport. Avant aujourd'hui. Okay.
Le hockey subaquatique nécessite un fond plat régulier et glissant. Ces contraintes ont empêché le développement du hockey subaquatique en mer. En novembre 2010, une plateforme sous-marine flottante a été testée au large de Hyères, en France, initialement développée par Gérard Muller, mort lors d'un accident de plongée en août 2009, la finalisation de cette aire de jeu a été menée par ses frères. Cette avancée technologique permettra sans doute des développements importants dans l'activité sur le bord de mer.
Oui, on peut penser que les adeptes de snorkeling ou de plongée
peuvent être intéressés. Alors, la première fois que ça est apparu comme sport dans les années 1950, ça a été inventé en Angleterre par Alan Blake, puis réinventé notamment en Afrique du Sud et aux États-Unis sous des formes un peu différentes. Le jeu a également évolué. On peut le pratiquer avec des bouteilles de plongée, ce qui rend évidemment plus... on peut passer plus de temps, si tu veux, en dessous de l'eau, parce qu'en apnée, évidemment, à moins de faire de la profondeur...
C'est une contrainte qui est intéressante aussi.
Alors, ça a même été pratiqué à un moment donné, mais ça n'a pas vraiment pogné, avec des crosses comme le hockey sur glace.
Oui, c'est ça. Donc, des bâtons de hockey. Parce que tu décrivais, c'était un bâton qui allait attraper un anneau qui fait office de palais.
C'est ça.
D'accord.
Et c'est qui est très court. C'est une trentaine de centimètres.
Oui, c'est ce que tu disais.
Alors, il y a la Confédération des activités subaquatiques, la CMAS, reconnue en 1978-64. Donc, il y a toutes sortes de groupes qui se développe. Et au hockey, au Québec, c'est en 1962 que c'est apparu.
Ah, bon.
Bon, il y a
assez
tout
tôt quand même. Moi, je ne suis pas vraiment conquis par le concept. Il faudrait peut-être le voir. Il faudrait peut-être aller sur le portail vidéo, visionner des extraits de matchs. Mais le water polo existe déjà.
Ben oui.
Et c'est spectaculaire.
Oui.
C'est très bien. C'est un genre de handball aquatique.
Oui.
Alors, quel besoin d'aller sous l'eau?
C'est les Anglais qui l'ont inventé, peut-être jaloux des performances des francophones au Québec avec le hockey sur glace.
Ah, écoute, là, ça, c'est une hypothèse chauviniste. Parce que le hockey est un sport national pour
parce qu'ils ont le water polo, les Anglais. Hein.
Ben, alors, les Italiens aussi adorent le water polo. Ouais. C'est un sport international.
Ouais. Alors, peut-être que c'est comme... Là,
à mon avis, c'est des gens qui avaient trop de temps à tuer.
Ils ont dit, on va inventer un jeu comme le football australien.
Oui, ça, c'est vraiment dans le top 3 des sports vraiment insolites.
Et le tiré du haggis.
Oui, voilà. On se demande l'utilité. Enfin, ouais. Tu me dis qu'il y a des fédérations internationales.
Absolument, il y a des fédérations internationales au Canada.
Dans le monde.
Dans le monde. Au Canada, c'est le Canadian Underwater Games Association, le CUGA. C-U-G-A.
D'accord. Alors, invitons les auditeurs qui ont eu leur curiosité piquée à aller enquêter sur le sujet. Donc, ça s'inscrit dans la longue liste des sports insolites qu'on a révélés à Sport et Santé Magazine. Merci beaucoup, Marie-Hélène.
Au revoir.
Après de bonnes bouffées d'air, tu me diras ce que je peux faire. Parce que là, tu t'enfonces et j'ai pas de réponse. Tu fabules, tu délires et je sais pas quoi dire. Tu trembles, tu maigris, t'as le teint pâle et gris. Tu changes et je m'ennuie de mon meilleur ami. Moi, je fais quoi, j'attends de devenir folle pour voir ce que tu. Toi, qu'est-ce que tu fous? On dirait que tu décolles et que tu deviens fou. Caché de ton visage, comme les traits effacés sous une belle image. Je lis dans tes yeux comme dans un livre ouvert. Et même si tu le refermes, je peux lire au travers. Et là, je le vois, tu t'enfonces à chercher des réponses. Tu fabules, tu délires, plus rien ne te fait rire. Tu mens, tu oublies, t'endors plus la nuit.
Nous entrons maintenant dans la portion santé et mieux-être de l'émission. Question de planter le décor, nous commençons tout de suite avec la revue de presse des actualités des derniers jours. Nous nous transportons d'ailleurs en Alberta. De nombreux résidents de Fort McMurray éprouvent un syndrome post-traumatique selon une étude de l'Université Laval. C'est rapporté par l'agence QMI. Une étude menée par des étudiants de l'Université Laval à Québec démontre qu'un fort pourcentage des personnes qui ont été évacuées de Fort McMurray en raison de l'incendie qui a ravagé la ville ont souffert d'un syndrome post-traumatique, a rapporté le Globe and Mail. Au total, ce sont 379 citoyens qui ont répondu à un questionnaire en ligne et 55 d'entre eux ont été passés en entrevue par les chercheurs. Du nombre, 60% présentaient des symptômes liés au stress post-traumatique et à des problèmes de sommeil. Plus précisément, 29% des évacués interrogés ont été diagnostiqués avec un syndrome post-traumatique, 26% souffraient de dépression et 36% étaient aux prises avec des problèmes d'insomnie. L'étude a été menée peu après la catastrophe, en juillet et août 2016. La professeure et psychologue Geneviève Belleville, qui a supervisé l'étude, a été surprise par les résultats. « Je ne m'attendais pas à autant de diagnostics d'insomnie. C'est préoccupant parce que les problèmes de sommeil sont un facteur de risque pour d'autres problèmes mentaux », a-t-elle souligné. L'incendie de Fort McMurray, qui a rasé 2400 bâtiments dans la ville, s'est produit en mai dernier, forçant l'évacuation de la ville pendant quelques semaines. La pire catastrophe naturelle de l'histoire du pays a coûté 3,7 milliards en frais d'assurance en 2016, selon le Bureau d'assurance du Canada. Vous trouverez cette nouvelle dans les colonnes de l'agence QMI. Le titre « De nombreux résidents de Fort McMurray éprouvent un syndrome post-traumatique ». Une étude de l'Université de la Colombie-Britannique, à présent UBC, et si le traitement anti-VIH ouvrait la porte à la syphilis, c'est rapporté par Radio-Canada International sur son portail rcinet.ca. Un traitement clé dans la lutte contre l'infection au VIH pourrait accentuer la vulnérabilité des patients à d'autres maladies comme la syphilis. Une étude réalisée par des chercheurs de l'Université de Colombie-Britannique affirme que les médicaments utilisés pour traiter le VIH peuvent avoir des effets sur la façon dont le corps humain répond à la syphilis. Cette situation expliquerait l'épidémie de syphilis rapportée dans plusieurs pays et touchant principalement la communauté homosexuelle. Des recherches antérieures avaient déjà soulevé l'hypothèse selon laquelle des traitements très efficaces contre le VIH encouragent les comportements sexuels risqués. Une nouvelle sur la lèpre, une maladie qu'on croyait éliminée. Dans les colonnes de l'agence France-Presse, c'est sous la plume de la journaliste Delphine Bousquet, la lèpre, une maladie faussement disparue. Lorsqu'elle est arrivée au centre de dépistage de Pobé, dans l'est du Bénin, Folahan avait le visage couvert de nodules, un symptôme de la lèpre. On croit la maladie éliminée dans le monde et pourtant, la jeune femme fait partie des 210 000 patients diagnostiqués chaque année sur la planète. Cette agricultrice, qui ne connaît pas son âge, a immédiatement été mise sous traitement. Si elle le prend bien pendant un an et s'il n'y a pas de réaction, elle sera complètement guérie. Son enfant de 4 ans devra également être suivi, car la maladie est particulièrement infectieuse. Associée au Moyen Âge et au tiers-monde, dans la conscience collective, la lèpre atteint la peau et les nerfs et crée des lésions irréversibles aux mains, aux pieds et aux yeux. Pour l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la lèpre n'est plus un problème de santé publique depuis l'année 2000 à l'échelle mondiale, car le taux de prévalence mondiale actuel est inférieur à un cas pour 10 000 personnes. Pourtant, au Bénin, comme dans d'autres pays, la maladie n'est pas éradiquée et on recense chaque année plusieurs dizaines de cas, dont 10% d'enfants, un chiffre stable depuis 10 ans. C'est ce que rapporte l'AFP, donc la lèpre, une maladie faussement disparue. Diabète à présent, c'est toujours dans les colonnes de l'agence France-Presse, le diabète tue nettement plus qu'estimé aux États-Unis. Le diabète adulte compte pour 12% de toutes les causes de décès aux États-Unis, une proportion nettement plus grande qu'indiquée par une estimation précédente selon une étude publiée dans une revue américaine il y a quelques jours. Cette maladie, dont la fréquence a fortement augmenté ces dernières années après l'augmentation de l'obésité, est la troisième cause de mortalité dans le pays, après les pathologies cardiovasculaires et le cancer, selon l'étude des universités de Pennsylvanie et de Boston, parue dans la revue PLOS ONE. Selon la seule étude similaire effectuée auparavant à partir de données recueillies dans les années 80 et 90, seulement 4% de tous les décès aux États-Unis étaient alors attribués au diabète. Vous allez voir, le pourcentage est plus élevé selon cette nouvelle étude. Alors, pour la nouvelle estimation, Andrew Stokes, un démographe de l'Université de Boston au Massachusetts, s'est appuyé sur deux grandes bases de données nationales représentatives, dont le National Health Interview Survey, qui peut fournir un échantillon de plus de 282 000 individus. Cela a permis de suivre les personnes jusqu'à leur certificat de décès et de faire une comparaison entre les diabétiques et les non-diabétiques, ont expliqué les chercheurs. Les chercheurs ont ainsi pu déterminer que le diabète compte désormais pour 12% des causes de décès aux États-Unis. Ces auteurs ont également constaté que le diabète comme cause de décès avait été jusqu'alors largement occulté ou sous-estimé, si vous préférez. Les statistiques annuelles de mortalité et de longévité font ressortir les grands facteurs comme la drogue, l'abus d'alcool, le suicide, mais jamais le diabète, ont relevé les chercheurs dans cette étude. Dans la mesure où un diabétique souffre souvent de complications cardiovasculaires et rénales, il peut être difficile de déterminer la cause exacte du décès, ce qui crée une ambiguïté sur le certificat de décès et conduit à des statistiques de mortalité qui sont erronées. Alors, le titre de cet article de l'agence France-Presse, « Le diabète tue nettement plus qu'estimé aux USA » et on peut supposer que c'est le cas ailleurs en Occident, au Canada notamment. Dans les colonnes de la presse canadienne sous la plume de la journaliste Stéphanie Marin, « Marijuana, l'âge du début de consommation a un effet sur les fonctions cognitives. Commencer à fumer de la marijuana après l'âge de 17 ans n'aurait pas d'impact sur les fonctions du cerveau des jeunes par la suite », conclut une nouvelle étude québécoise. Alors que le Canada est en train de réfléchir aux différents aspects de la légalisation de la marijuana, l'étude pourrait apporter de nouveaux arguments à ceux qui insistaient pour que la substance ne soit accessible qu'aux personnes âgées de plus de 18 ans. C'est d'ailleurs la recommandation du groupe de travail sur la légalisation et la réglementation du cannabis du gouvernement fédéral actuellement. Cette nouvelle étude, donc, a été réalisée par des chercheurs de l'Université de Montréal et publiée dans la revue Development and Psychopathology des presses universitaires de l'Université de Cambridge. Les auteurs concluent que les jeunes qui commencent à fumer de la marijuana ou à consommer du cannabis sous d'autres formes au début de leur adolescence auront certaines capacités de leur cerveau plus limitées que ceux qui roulent leur premier joint après l'âge de 17 ans. On se transporte dans un autre sujet. Une femme sans poumons survit 6 jours avant une transplantation. Alors, c'est assez étonnant comme manchette. Je vous lis tout de suite quelques lignes de cet article. Des chirurgiens de Toronto ont retiré à une femme ses 2 poumons infectés et l'ont maintenue en vie avec des appareils pendant 6 jours en avril dernier, donc en avril 2016, jusqu'à ce qu'elle puisse subir une transplantation. Les détails de cet exploit chirurgical sont publiés il y a quelques jours dans la revue médicale Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. La technique a permis à la jeune mère de famille de 32 ans, originaire du Vermont, Mélissa Benoît, de survivre. Le chirurgien thoracique Chaf Keshavi assure qu'il ne restait à Mélissa Benoît que quelques heures à vivre lorsque les médecins ont proposé à sa famille d'employer cette technique radicale. Mélissa Benoît, qui souffrait depuis la naissance de fibrose kystique, était alors dans le coma. La famille a donné son accord. Pendant une chirurgie qui a duré 9 heures à l'hôpital général de Toronto, les poumons de Mélissa Benoît ont été retirés. Des pompes assurant la circulation de son sang lui ont ensuite permis de rester en vie pendant 6 jours jusqu'à ce qu'une transplantation pulmonaire soit possible. Mélissa Benoît a ensuite passé 3 mois à l'hôpital pour sa réhabilitation. Et on termine avec une nouvelle étonnante, un peu insolite. Vaut-il mieux ne pas griller ses toasts? C'est dans le fil de l'agence France Presse. Les personnes friandes de toasts, donc de pain grillé très rôti, presque carbonisé, de pommes de terre frites, ne devraient pas trop les griller, ont recommandé il y a quelques jours les autorités sanitaires de Grande-Bretagne dans une campagne soulignant les risques cancérigènes associés aux cuissons extrêmes. Les zones des aliments brunis dans ces circonstances extrêmes contiennent en effet de l'acrylamide, un produit de glycation alimentaire découvert en 2002 par des chercheurs suédois, potentiellement cancérigène et neurotoxique. L'acrylamide, souligne l'Agence britannique de sécurité alimentaire, se forme notamment dans les aliments riches en amidon, comme les pommes de terre et le pain, lors des cuissons à haute température. Pour minimiser l'exposition à cette substance chimique, l'Agence britannique de sécurité alimentaire conseille de limiter la cuisson des aliments et donne aux consommateurs une petite astuce visuelle pour y arriver. Préférez la couleur or à celle du brun, signe d'une cuisson prolongée. Alors c'est sur cette nouvelle que nous refermons la revue de presse des actualités santé et mieux-être pour cette semaine. Après cette pièce musicale de l'auteur-compositrice-interprète Andréane A. Mallette, je retrouve en studio Julie Gagnon, avec qui nous allons prendre connaissance cette semaine de récentes découvertes sur les méfaits de la position assise. À tout de suite. Vous êtes à l'écoute de Sport et Santé Magazine. Merci d'être à l'écoute de votre radio communautaire francophone locale. On est toujours dans la portion santé. Restez bien accrochés à votre fréquence locale. On va parler maintenant de position assise et des méfaits de la position assise en compagnie de Julie Gagnon. Bonjour Julie.
Bonjour Alexis.
C'est dangereux pour la santé de rester assis, c'est ça?
Exactement. En fait, ça fait très longtemps en fait qu'on entend beaucoup d'études sortir sur la position assise et ses effets néfastes sur la santé. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est d'actualité en ce moment.
Alors tous ces gens qui ont leur standing desk, leur bureau debout, c'est un petit peu dans cette
Optique-là. Ouais, je sais pas pour toi, mais moi quand j'ai lu un article là-dessus, je m'en magasine un ensuite parce que c'est vraiment très alarmant pour tous les gens qui travaillent assis à des bureaux à longueur de journée dans un 9 à 5.
Ouais.
Et on est nombreux, je crois, à avoir un travail qui exige une position assise pendant de longues heures. Et il y a une nouvelle étude qui est sortie de l'Université de la Californie à San Diego School of Medicine.
Oui.
Elle est sortie le 18 janvier dernier. Et c'est justement par
c'est
rapport
très récent.
À... Oui, c'est ça, mm-hmm. par rapport à la position assise, mais à un âge un petit peu plus avancé chez les femmes, donc des femmes âgées entre 65 et 95 ans.
OK.
Donc, on s'inquiète aussi de leur position assise,
bien
à ces femmes-là. Donc, l'étude, en fait, qui a été publiée dans le American Journal of Epidemiology, révèle que les femmes âgées demeurent assises plus de 10 heures par jour et qui font peu d'activité physique. Mm-hmm. On estime entre moins de 40 minutes, moins de 150 minutes qui est demandé par
les autorités sanitaires, le ministère de la Santé.
Oui, c'est ça, qui est demandé par le ministère de la Santé. Ces femmes ont des cellules plus vieilles de 8 ans comparativement aux femmes du même groupe d'âge qui sont moins sédentaires. Donc, c'est très alarmant sur la mm-hmm. qualité de vie, sur la vieillesse aussi, parce que mm-hmm. L'âge chronologique et l'âge biologique semblent différer pour ces femmes-là.
D'accord.
Donc, c'est très alarmant. C'est une étude qui a étudié 1500 femmes de 64 à 95 ans qui ont porté un accéléromètre sur leur hanche gauche pendant 7 jours, 24 heures sur 24, pour qu'on puisse mesurer leur activité physique.
Oui.
Et elles ont aussi répondu à des questionnaires.
D'accord.
Donc, l'étude a trouvé que les femmes qui sont âgées de ce groupe d'âge-là, qui font moins de 40 minutes d'exercice d'intensité moyenne intense, ont des télomères plus courts. Les télomères, c'est quoi?
Oui.
je voyais ta question.
Tu voyais mon expression perplexe.
Oui, exactement, de mon mot scientifique. C'est en fait, c'est l'extrémité des brins d'ADN qui empêche les chromosomes de se détériorer. Dans le
ah,
fond.
D'accord.
Ils raccourcissent avec l'âge, le tabagisme, l'obésité et, bon, maintenant, la position assise. Oui. Peuvent maintenant provoquer le on sait qu'ils peuvent provoquer le raccourcissement de ces télomères-là. Et,
plus rapide, quoi. Ils les accélèrent, le phénomène.
Exactement. Okay. Plus facile, plus rapidement. Et des télomères raccourcis, ben, c'est associé à des maladies cardiovasculaires, à du diabète, à certains cancers.
Alors, est-ce que l'étude propose des façons de ralentir tout ça, de ralentir le vieillissement?
Absolument.
J'imagine qu'il faut éviter la position assise. logiquement?
logiquement, oui, mais en fait, bon, évidemment, c'est une habitude qui est à briser. C'est ce que tout le monde dit dans toutes les études sur la position assise. Mais pour les gens qui ont pas le choix, en fait, on recommande de suivre les indications les normes nationales en matière d'exercice physique, c'est-à-dire 30 minutes par jour. Si on fait 30 minutes par jour d'exercice d'intensité moyenne à élevée, on arrive à freiner ce raccourcissement de ces télomères-là. Donc, il faut évidemment être un peu plus actif. Donc, les femmes qui sont moins sédentaires, qui font plus d'activité physique de manière quotidienne, arrive à freiner ce vieillissement-là des cellules. Et le chercheur en chef, le docteur Chadiab, croit, lui, qu'on devrait qu'on devrait parler d'activité physique dès le plus jeune âge, mais qu'on devrait aussi se garder actif après nos 80 ans, après nos 65 ans. Donc, il faudrait, oui, parler d'activité physique tout au long de la vie, mais vraiment mettre un emphase sur lorsqu'on est un petit peu plus âgé, l'activité physique après 60 ans, il faudrait que ça soit encore très, très, très important et très discuté, en fait.
Et je suis en train de survoler ta chronique, là. Tu indiques que la sédentarité a aussi un bénéfice, réduire la sédentarité a aussi un bénéfice économique.
Oui, absolument. En fait, ce qu'on a vu dans les études des dernières années, c'est que il y aurait un bénéfice monétaire à réduire la sédentarité dans nos populations. Mm-hmm. C'est qu'on pourrait économiser jusqu'à 2,5 billions d'ici 2040 en frais médicaux pour les diabétiques, les maladies du cœur, le cancer. C'est sorti tout droit d'un rapport qui s'appelle Moving Ahead. Et cette analyse du Conference Board du Canada estime que le système médical canadien pourrait ressentir un effet d'ici 2020 si la population avait commencé à faire d'exercice en 2015. Donc, on parle de l'exercice quotidien, 30 minutes par jour, pourrait nous amener à sauver 222 000 cas d'hypertension, 120 000 moins cas de diabète, 170 000 moins de cas de maladie du cœur. Vous voyez, les chiffres sont astronomiques.
Oui.
On parle de 31 000 cancers en moins. Et d'ici 2040, le taux de mortalité prématurée pourrait descendre de 2,4%, c'est-à-dire 6 600 vies qui pourraient être sauvées grâce à l'exercice physique, tout simplement, quelque chose qui coûte pas vraiment d'argent, qui requiert une paire d'espadrilles, une bonne liste d'écoute, puis un ami pour aller marcher.
Exact.
C'est pas un gros investissement pour sauver énormément.
Et alors là, comme il faut bien sûr convaincre les Canadiens, et ça passe par toutes sortes de campagnes de sensibilisation, pas nécessairement des campagnes de culpabilisation, mais des campagnes bien faites qui sont inspirantes. Et qui invite les gens à la mesure de leur capacité à se mettre à l'exercice, donc à ne plus rester assis sur leur steak.
Absolument.
Bon, ça, c'est peut-être pas à retenir comme slogan, mais d'ailleurs, avant qu'on se laisse, je voulais citer ce que tu m'avais dit hors d'antenne. Oui. Sitting is the new smoking.
Oui, absolument. Alors, c'est la nouvelle, c'est le nouveau, nouvelle cible.
C'est ça. Donc, on a vraiment découvert les méfaits de la station, de la position assise. Et c'est encore confirmé par l'étude que tu nous citais aujourd'hui sur ces dames un petit peu plus âgées, mais l'étude vraiment, les études sur la position assise sont nombreuses depuis quelques années.
Absolument, et cette étude va se pencher dans les prochaines années sur les groupes plus jeunes et les hommes aussi pour voir les effets. Donc, c'est
cette
vraiment...
même équipe de Californie,
San Diego.
OK, oui. Excellent.
Va aussi se pencher. Et on disait d'ailleurs qu'en terminant, que c'est bien beau de faire de l'exercice physique, mais il faut aussi briser l'habitude d'être assis. Donc, ça ne sert à rien de faire 30 minutes d'exercice si on passe 10 heures sur notre sofa à écouter la télévision par la suite.
Voilà.
Donc, c'est vraiment important de briser, de bouger à peu près à toutes les heures quand on travaille assis à un bureau. Mmh. Donc, aller prendre un verre d'eau, aller voir un collègue, bouger à peu près à toutes les heures.
D'accord, c'est noté. Gros merci, Julie.
Merci, Alexis.
Oh,
On entendait à l'instant l'artiste Julie Lefebvre, une pièce intitulée « Les pieds ». C'est déjà la fin pour cette édition de Sport et Santé Magazine. Alexis Gagnon au micro. Merci de m'avoir accompagné au cours de cette heure d'information, où que vous soyez, au travail, à la maison ou en voiture, en Saskatchewan, en Alberta, en Colombie-Britannique ou encore dans les territoires du Nord-Ouest. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.
And you don't.